franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La campagne électorale de 1981. Ces acteurs politiques et hommes de com, ces rassemblements, ces affiches, ces slogans, et puis ces débats tels celui du 5 mai.
Vous ne voulez pas parler du passé, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Et pour nous accompagner dans ce récit, dans cette analyse, Michel Cotta, bonjour.
Bonjour.
Qui fut la co-arbitre avec Jean Boissonnat de ce débat de l'entre-deux-tours et dont on réédite sous une nouvelle forme, carnet de route, les fameux cahiers secrets de la Ve République. Alors on va prendre les choses, Michel Cotta, si vous le voulez bien, dans l'état où elles étaient en mars 1981, donc 3 mois à peu près avant le scrutin. À droite, il y a des candidatures peut-être symboliques, mais ce sont de grands caractères qui ne vont réaliser que de petites espérances.
Oui, il y a surtout la candidature de Michel Debré. Qui est candidat un peu en témoignage, celle de Marie-France Garraud qui se déclare à la fois contre Chirac et contre Giscard, il faut bien dire, et puis les grosses candidatures qui sont celle de Valéry Giscard d'Estaing et celle de Chirac.
Chirac qui a été premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui va mener une guerre de guérilla en fait contre celui avec qui il avait rompu en 1976. Alors à gauche, de petites candidatures aussi.
Oui, essentiellement celle de Michel Crépeau, qui est un radical de gauche, une candidature communiste et la candidature Mitterrand.
Et puis on ne va pas classer Brice Lalonde, qui n'est pas un petit candidat, qui est le Benjamin, d'ailleurs, de ceux qui vont se présenter. François Mitterrand s'est déclaré en décembre-janvier. Il avait crevé auparavant le nuage sur lequel flottait Michel Rocard, son adversaire.
Il s'était débrouillé pour que Michel Rocard, qui avait juré auparavant au congrès de Metz, qu'il ne se présenterait pas contre Mitterrand, il s'est débrouillé pour le coincer. Et effectivement, Michel Rocard a abandonné devant lui en lui laissant la place. Donc après. La route était libre.
La route est libre, mais cependant, à l'extrême gauche veille, je ne parle pas seulement d'Arlette Laguiller, Georges Marchais et le Parti communiste. Les relations sont très fraîches entre Mitterrand et Marchais.
Paradoxalement, les relations sont fraîches depuis 1977, hein, depuis la rupture, depuis septembre 1977, la rupture du programme commun. Donc Marchais se présente. Mais paradoxalement, dans cette campagne, ça va beaucoup aider François Mitterrand, pour deux raisons. D'abord, c'est que, comme il le dit lui-même, il n'y a pas de palabres à mener, pas de conversations interminables, etc., à mener avant le premier tour. Et deuxièmement, d'une certaine façon, on peut moins exploiter contre lui l'épouvantail des communistes. Alors, Valéry Giscard d'Estaing essaye de l'exploiter, cet épouvantail-là, mais évidemment, ça marche moins bien. Il n'y a pas d'accord entre les communistes et les socialistes.
Et Valéry Giscard d'Estaing sera même traité de petit télégraphiste de Moscou par François Mitterrand.
Avec une énorme mauvaise foi, mais qui passe quand même la rampe, hein, très bien. Puisque
Giscard d'Estaing est allé rencontrer Brezhnev
à Varsovie. François Mitterrand dit oui, c'est le petit télégraphiste, il vient, il se déplace lui-même pour aller lui apporter les lettres du monde occidental en quelque sorte. Bon. Alors c'est de mauvaise foi, mais au début ça scandalise uniquement Raymond Barre, qui a scandalisé tout de suite après, mais il faut une semaine à Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il se dise que ça risque bien de l'atteindre. Parce qu'en fait, ce dont il souffre, c'est quand même d'une trop grande sûreté en soi.
Et puis, il est le président sortant, donc il exerce ses fonctions en politique étrangère. Et comme il sied au sortant, qui travaille pour la France et n'a pas le loisir de s'occuper de lui, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui se déclare le dernier.
Françaises, Français, mes chers amis, dans un peu plus de 50 jours, vous voterez pour le premier tour de l'élection présidentielle. À ce sujet, j'ai 3 choses à vous dire. Je vous rendrai le pouvoir que vous m'avez confié en mai 1974. Je n'ai jamais pensé qu'il m'appartenait. J'ai toujours su qu'il était à vous qui me l'aviez confié pour la durée de mon mandat. Je vous le rendrai intact.
Alors, évidemment, on voit bien que la difficulté de Giscard est à la fois d'être le président sortant, c'est-à-dire d'avoir quand même un bilan à défendre, et d'apparaître comme le candidat du renouveau. Il était apparu sans difficulté en 1974 comme le candidat du renouveau à la mort de Pompidou. Là, c'est plus difficile. Et c'est effectivement là-dessus que tout de suite, on s'aperçoit que sa campagne est au début un encéphalogramme plat.
On va parler campagne, construction de l'image, si vous le voulez bien, Michel Cottard. Et alors, justement, le fait d'être le sortant, c'est un handicap pour la construction de l'image de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Mmh. On se souvient de l'affiche, peut-être, avec Jacinthe, sa fille, le père, et l'enfant dans un décor suburbain, moderne, à l'américaine, la modernité.
Mmh. Oui, et simplement, la modernité, au fond, ça n'était pas ce qui lui manquait. Donc l'affiche n'apportait rien de plus. On savait qu'il était un père de famille, un jeune père, enfin, qu'il avait de jeunes enfants. Donc c'est pas ça peut-être. Il fallait peut-être à l'époque qu'une affiche incarne quelque chose de nouveau, de Napoléon au pont d'Arcole, vous voyez. Et là, l'affiche est tombée un peu à plat.
Oui, 81, il faut un président pour la France. Alors, on voit son visage, sa signature. Le slogan, on le met en haut parce que comme ça évite les barbouillements.
Oui, c'est ça. Oui, c'est...
L'affiche, c'est plus important qu'aujourd'hui, parce que les dépenses de campagne sont aujourd'hui limitées.
Oui, et c'est... l'affiche, quand même, c'est l'image. Et c'est pour ça que si on en vient à François Mitterrand, je suis persuadé, moi, qu'une des raisons de sa victoire en 1981 était cette affiche extraordinaire, La Force Tranquille. Puisqu'elle avait essayé d'autres affiches avant, qui étaient très bien aussi, hein, qu'il montrait en équipe. Alors, il disait, regardez, ça fait bien, ça fait collectif. Mais ça marchait moins bien, c'était moins original. Et au contraire, la photo de son visage, simplement, se découpant sur une photo avec, au contraire, un petit village. Giscard avait pris une banlieue, il a pris un tout petit village avec un clocher, tout ça a beaucoup rassuré. Or, de quoi avait besoin Mitterrand de rassurer ?
Un village de la Nièvre, bien évidemment.
Bien évidemment.
Donc, c'est plus important à vous entendre que les 110 propositions un peu hétéroclites, son programme qu'il avait publié en même temps. Vous rejoignez pour une fois, Michel Cottard, le point de vue de l'un des grands contributeurs de la communication de François Mitterrand, il n'était pas le seul, Jacques Séguéla, au micro de Patrice Gélinet.
Cette force tranquille, quand elle est sortie au mois de mars, n'a eu absolument aucun écho. Tout le monde l'a critiquée. Je me souviens d'une double page du journal du dimanche où l'ensemble des publicitaires et des hommes politiques avaient noté toutes les campagnes et j'arrivais en dernière position. Et puis cette affiche est devenue célèbre le jour où lui est devenu célèbre, c'est-à-dire le jour où il est devenu président. Et ce n'est qu'après qu'elle a fait son chemin. Car la seule promesse électorale à laquelle on est tenu n'est pas la promesse des 101 propositions programmatiques, c'est la promesse de son affiche.
Alors effectivement, moi je ne me souvenais pas que cette affiche n'avait pas été prisée au départ, mais j'ai tout à fait le souvenir de moi et de plusieurs autres personnes ayant trouvé que justement ça compensait, ça donnait à Mitterrand l'image d'un homme tranquille et 1974 avait marqué une très bonne campagne pour lui. Une très mauvaise campagne d'affichage, trop compliquée, trop tordue, qui faisait que la France tranquille, ça rassurait tout le monde. Voilà. Et il fallait rassurer à ce moment-là.
Alors, réveillons vos souvenirs encore, Michel Cottard. Vous adoriez suivre les candidats en meeting. C'est très amusant de passer de l'un à l'autre.
Ah bah oui, ça c'est d'une... puis on voit les styles, le côté, l'art oratoire absolument extraordinaire de François Mitterrand, mais qui n'a pas toujours été un avantage pour lui, parce que au début, vous rêvez, au début de sa vie, il était resté l'orateur de meeting et ça passait pas du tout à la télévision, par exemple.
Avec Chirac, quand on le suivait, il fallait manger, boire.
Ah oui, oui, ça, il fallait. Il était très roboratif comme candidat. Assez drôle aussi, moins bon orateur. Il ne cherchait pas d'ailleurs à exercer son talent oratoire. Mais pour les journalistes qui le suivaient, c'était très drôle. Oui.
Très préoccupé de sa serviette pendant que Mitterrand l'était de ses lunettes.
C'est ça, il passait son temps à chercher sa serviette qu'il a voulu. On se demandait ce qu'il y avait dans cette serviette d'ailleurs. Et souvent, c'était un sandwich.
Oui, alors là, on parle de la serviette de Chirac et les lunettes de Mitterrand.
Et les lunettes de Mitterrand.
Ce premier meeting de campagne du candidat citoyen Mitterrand est organisé sous un chapiteau de quelques 2000 places, donc il est tout à fait plein et même archi-comble. Cela bien avant le discours de François Mitterrand, pas encore terminé. Je voudrais que vous en écoutiez un extrait très significatif, celui où M. Mitterrand répond à Valéry Giscard d'Estaing lorsque, vous savez, dans son interview du Figaro magazine, il s'en était pris au parti politique.
Si l'on me rétorque que... Bien entendu, on n'a pas voulu dire ça, qu'on n'a pas voulu attenter à l'existence des partis, pourtant représentés comme inutiles, bavards et dangereux, et que cela me soit dit par quelqu'un dont le parti se réunit cet après-midi même. Eh oui, le parti du candidat sortant. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance depuis qu'il est dans l'arène politique, c'est-à-dire depuis longtemps, passant de parti en parti. Désolé de n'avoir pu constituer comme il aurait voulu le parti présidentiel. Il n'a pas trouvé assez de Français pour ça.
Allons la rose au coin, chercher un grand jardin, et allons-y déposer la rose de l'unité. Allons la rose au coin, chercher un grand jardin, et allons-y déposer la rose de l'unité.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Cotta, la campagne électorale de 1981, on vous a déposé en prime un disque autoproduit par Pascal Vincent, issu de la collection de Martin Penney. Alors, on l'entendait davantage, je pense, la chanson de Theodorakis, La rose au poing, c'était le décor des meetings de Mitterrand. Vous qui aviez suivi d'autres campagnes du candidat, vous trouvez que c'était une bonne campagne ?
Et c'était franchement pas la meilleure. Moi, j'ai trouvé que la meilleure était celle de 74. La meilleure personnelle était celle de 74. Moins les affiches, etc. Et là, c'était une campagne très parti socialiste. C'est-à-dire, il ne prenait aucune distance par rapport au parti socialiste. C'était les socialistes qui l'attendaient. C'était les présidents, les secrétaires fédéraux, etc. Et il n'a jamais été un formidable militant lui-même. Et alors, ça l'énervait tout le temps que les gens le tutoient en disant « Alors, comment ça va? Ça s'est bien passé? Ton voyage a été bon ?» Il leur répondait systématiquement « Vous avez raison, tout va bien pour moi. » Bon, donc il était... C'était pas une campagne, mais c'était une campagne où quand même son expérience, qui aurait pu être un désavantage pour lui, on aurait pu dire « Bon, il est vieux, etc. » Il s'est débrouillé pour transformer cet âge en expérience et donc toujours en rassurance et en maturité.
Son positionnement était excellent.
Son positionnement était parfait. Encore une fois, les communistes ont beaucoup aidé.
C'est-à-dire que la fraîcheur de ses relations avec le PC, c'était plutôt un avantage. Les gens de gauche des autres partis, ils allaient venir à lui comme la limaille à l'aimant.
Oui, ben c'était assez naturel pour le Parti radical, qui quand même avait fait, avec le Parti socialiste, une fédération de la gauche, il n'y avait pas tellement longtemps. Et les Verts étaient beaucoup plus... Enfin, les écolos étaient plus divisés qu'on ne le croit à l'époque. Brice Lalonde a plutôt une partie de son électorat, deux tiers, un tiers, je crois, s'est séparé. Mais enfin, les Verts, on ne savait pas encore très bien à l'époque où ils allaient.
Oui, mais Chirac disait, François Mitterrand, fais le boulot que je ne peux pas faire.
Présidentielle, jour J-10, et une campagne intensive pour les 10 candidats du premier tour qui se partagent entre leur meeting en province et leur passage radio-télé. Jacques Chirac à Bordeaux, c'est bien simple, pour battre François Mitterrand, il faut l'éliminer dès le premier tour, et pour cela, le candidat soutenu par le RPR ne voit qu'une seule solution, que les électeurs votent pour lui le 26 avril.
Personne ne peut contester que je suis le seul candidat qui progresse de façon continue depuis 2 mois. Pendant que les 2 autres candidats susceptibles, comme moi, d'être présents au deuxième tour, stagnent ou régressent. Alors j'imagine naturellement que ça les préoccupe et que ça les agace. Quoi qu'il ne faut pas prendre les Français pour des sots. Battre M. Mitterrand au deuxième tour et par M. Giscard d'Estaing C'est aléatoire et chacun en prend de plus en plus conscience aujourd'hui. Alors que battre M. Mitterrand au premier tour, en votant pour moi et en faisant en sorte que le candidat socialiste soit éliminé, leur apparaît de jour en jour comme une hypothèse à la fois plus sûre et plus crédible.
Oui, là, il disait franchement pas ce qu'il pensait. Il n'a jamais pensé que Giscard pouvait arriver premier au premier tour et lui second. Bien sûr, c'était la circonstance dans laquelle il suffisait qu'il devance Giscard pour effectivement être élu. En réalité, j'ai le souvenir d'une conversation avec lui 6 jours avant le premier tour où il me dit qu'il pense arriver en troisième position. Il pense que 30% de ses électeurs du premier tour voteront pour Giscard, et que Mitterrand sera élu.
Oui, mais il dit la vérité avec le lapsus. Vous avez entendu qu'il parlait de troisième tour.
Il parle de troisième tour, alors ça veut dire les législatives. C'est-à-dire qu'il a toujours pensé pendant toute cette campagne que donc Giscard finirait par être battu et que lui, Chirac, serait la première force de l'opposition. Ce qui a d'ailleurs été le cas. C'est-à-dire que sur le moment, on sourit, mais en réalité, il s'est fait élire plus tard parce qu'il était la première force de l'opposition.
Le 26 avril, tombent les résultats du premier tour. Jacques Chirac est seulement à 14,4. Valéry Giscard d'Estaing vire en tête à 22,6. François Mitterrand est à 20 points plus 6. Georges Marchais seulement à 12 points. Alors, premier enseignement tiré par Bernard Ponce que vous rencontrez,
qui est un ami de Jacques Chirac, et qui regarde uniquement le chiffre de Giscard et qui dit « il est cuit ». Il est cuit. Et parce qu'effectivement, il pensait que tout de même la discipline républicaine jouerait pour le deuxième tour en faveur du candidat de gauche, tandis qu'il savait déjà que beaucoup de votants d'électeurs de Chirac ne se reporteraient pas sur Giscard. Et c'est ce qui s'est passé. 30% à peu près ne se sont pas reportés.
À gauche, c'est le début de l'effondrement du Parti communiste, notamment dans les banlieues rouges et dans plusieurs points d'appui traditionnels.
Oui, parce que les communistes ont voté utile dès le premier tour. Et ça se voit pas seulement dans la banlieue, ça se voit dans le Nord et le Pas-de-Calais, où on voit nettement qu'une partie de l'électorat de Georges Marchais a voté Mitterrand au premier tour. Ce qui d'ailleurs incite beaucoup le Parti communiste à faire manœuvre, mouvement vers Mitterrand dès le soir du premier tour.
Pour sauver les meubles. On
Donc
comprend
les contacts se renouent à ce moment-là.
On
seulement.
Comprend que l'inquiétude monte dans le camp de Valéry Giscard d'Estaing et chez le président lui-même qui avait longtemps pensé qu'il allait être vainqueur.
L'angoisse m'étreint le cœur. D'un côté, dans le ciel, les ailes noires des oiseaux qui portent les mauvaises augures. Et de l'autre, la société de l'espoir.
Les bruits qui rasent le sol, les bruits qu'on fait courir. Ah, si la gauche l'emporte, attention, vous aviez une petite maison, mais ils vont vous la prendre. Vous avez une retraite, ils vont vous l'arracher. Vous avez de l'épargne, ils vont vous la voler. C'est ce qu'ils disent, les autres. Ils n'existent que par la peur qu'ils répandent dans l'opinion publique.
Oui, c'est vrai que l'atmosphère a été à une peur intense, puisque même, je me souviens de ministres de Valéry Giscard d'Estaing qui disaient que les tanks soviétiques feraient mouvement et encercleraient Paris. Alors, ça fait rigoler maintenant, des années plus tard. Mais il est vrai que faire entrer les communistes au gouvernement, comme l'a dit François Mitterrand, entre le premier et le deuxième tour, c'était vraiment briser un tabou extraordinaire. Tabou de la Ve République, mais aussi depuis la IVe République. Donc, moi, je me rappelle encore des conversations entre les deux tours avec des partisans de Michel Rocard disant « Jamais François Mitterrand n'osera faire entrer les communistes au gouvernement. Ouais, » voilà, il a osé, mais rassuré en même temps.
On parle campagne et pas seulement idée, émotion et pas seulement programme. Il y a des scénarios de l'émotion qui sont écrits. Alors, sur le mode fantastique, tout à l'heure, dans l'archive précédente.
Oui, vous voulez dire les ailes noires, voilà, des oiseaux de mauvaise augure.
Et nous voici maintenant avec les ultimes meetings dans le genre comédie musicale à grand spectacle.
Nicole Croisy, Mort Schumann, Georges Guettari, 27 groupes folkloriques, Mireille Mathieu qui a chanté la Marseillaise, Alain Delon qui a lu un texte de Victor Hugo sur le suffrage universel, tout était réuni pour que l'accueil au président sortant se déroule dans l'enthousiasme le plus total. D'entrée de jeu, Valéry Giscard d'Estaing a rendu hommage à Jacques Chirac.
Oui, Jacques Chirac a eu raison de défendre les idées de liberté. Puisque je suis le seul à pouvoir en parler au second tour, j'ai le devoir de reprendre ces thèmes. Je le ferai d'autant plus facilement que ces idées sont les miennes. J'ai déjà indiqué que la campagne menée par Jacques Chirac avait été utile et positive. Je suis prêt à m'entretenir avec ceux qui ont soutenu cette thèse, avant ou après l'élection présidentielle.
Pour Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a pas d'autre solution que de réveiller les ardeurs unitaires des électeurs de Chirac.
D'autant qu'après le premier tour, Chirac a fait le service minimum. Alors, il a bien dit qu'il voterait Giscard d'Estaing. Mais enfin... il l'a dit en étant persuadé, comme l'ensemble des militants du RPR, que une bonne partie n'allait pas voter pour Giscard d'Estaing. Donc effectivement, Giscard n'a pas d'autre solution que de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire reconnaître la campagne de Jacques Chirac. Mais voilà, ça ne suffit pas.
Tisonnons les souvenirs, comme on le fait depuis le début de l'émission. Michel Cotta, l'atmosphère de ce meeting, il était réussi ce meeting.
C'était un meeting bon, Giscard.
C'était
un meeting très réussi, très réussi. Il n'était pas, était très bon orateur quand même. Et il a dit ce qu'il fallait dire au RPR. Ceci étant, c'est l'assistance qui était mitigée, parce que naturellement, dans l'assistance, il y avait beaucoup plus de gens venant de son parti, de l'UDF, que du RPR. Et par conséquent, cet hommage dans ces cas-là, l'hommage à la personne qui l'a combattu, est toujours difficile à passer. Mais enfin, je trouve qu'il l'a fait passer, et c'était un des meilleurs meetings de Giscard.
Une remarque incidente, on a entendu la composition du comité culturel. François Mitterrand, sans doute grâce à Roger Hanin et à Jacques Lang conjugué, était beaucoup plus fort dans ce domaine.
Oui,
mais c'est vrai que c'était des personnalités c'était culturelles plus normal, des personnalités du spectacle.
C'était plus normal, c'était plus naturel à gauche. Et puis, il faut bien dire que Jacques Lang faisait ça depuis des années et qu'effectivement, l'entourage était tout à fait culturel. Mais au fond, on a l'impression toujours que c'est normal que la culture soit à gauche, tandis que c'est toujours... Enfin, Valéry Giscard d'Estaing a ressenti le besoin... tout de même d'équilibrer les choses sur ce terrain. Alors, est-ce qu'il les a équilibrées vraiment? Ça, je n'en sais rien. Mais il a ressenti ce besoin-là.
De toute façon, un meeting ne peut pas suffire parce que le plus important va maintenant se jouer à la télévision. Ça fait des années que vous faisiez de la télévision, vous?
Non, pas du tout. C'était la première fois.
C'était la première fois. Vous êtes co-arbitre du débat de l'entre-deux-tours.
Parce que nous n'étions justement pas. J'étais avec Jean Boissonnat. Et nous avons été choisis d'un commun accord par les deux protagonistes parce que François Mitterrand ne voulait pas de journaliste de la télévision parce qu'il pensait que la télévision était trop sous contrôle. Et donc, il a fait une proposition de 4 noms à Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing a choisi les deux premiers par ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'il a écarté Jean-François Kahn et écarté Guy Thomas, voilà, qui étaient les deux autres.
Vous étiez morte de trouille.
Ah oui, c'est quand même un débat où on sait qu'il y a le maximum de gens qui regardent. Alors on essaie, on m'avait dit ne regarde pas la caméra, dis ce que tu as à dire. Et finalement, tout de suite, au fond, on se met dans le bain tout de suite parce qu'on n'a pas de moyens. Vous savez, c'est comme quand on saute et qu'il y a 4 mètres de fond.
Tout de même, c'est l'arbitre masculin qui commence, qui arbitre le premier.
Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand. Il sera dirigé par deux journalistes choisis d'un commun accord, Michel Cotta, journaliste à RTL, et moi-même, Jean Boissonnat, journaliste à l'Expansion et chroniqueur à Europe 1. Michel Cotta pose la première question.
Alors, M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Mitterrand, au fond, À l'issue du deuxième tour, vous avez devant vous à peu près le même problème. Vous avez obtenu l'un et l'autre, le 26 avril, plus de 25%, le quart du corps électoral, mais l'un et l'autre, vous avez besoin, pour être élu, d'un autre quart. Vous, François Mitterrand, vous avez besoin des communistes, et vous, Valéry Giscard d'Estaing, vous avez besoin des électeurs de Jacques Chirac.
Temps sur temps, Michel Cottard, 2011.
C'était assez bien résumé. Finalement, c'est la première question politique, mais qui posait bien le problème. Alors, le souvenir que j'ai de ce débat, si tant est que dans l'espèce de pression dans laquelle on était les uns et les autres, j'ai retenu quelque chose. J'ai retenu quand même, lorsque Mitterrand a eu la phrase « Vous parlez de l'homme du passé, mais vous êtes l'homme du passif », j'ai vu une espèce de contentement incroyable pour lui. Pourquoi ? Parce que des années avant, en 1974, il avait été battu par la fameuse phrase de Valéry Giscard d'Estaing, « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Donc au fond, j'ai l'impression que depuis 7 ans, il cherchait comment lui répondre, et que lui répondre, et quelle formule avoir. Et là, l'homme du passé, l'homme du passif, il était ravi d'avoir pu le balancer à temps.
Les 7 ans passés, il n'avait peut-être pas fait quand même suffisamment d'études d'économie. Mais quand Giscard lui posait des questions désagréables, par exemple sur le cours du Deutschmark, il savait contourner.
Bah, tout à fait. Il a eu cette phrase qui correspondait beaucoup à l'état d'esprit d'un certain nombre de gens. Il a eu « Vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève ». Or, c'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing avait une façon formidable, d'ailleurs, de, lorsqu'il était ministre des finances, de parler du budget, lorsqu'il était président, de parler des problèmes économiques. Mais c'est vrai que cet arrêt brutal sur « je ne suis pas votre élève » a aussi déconcerté beaucoup. Et je pense que c'est ce qui a déconcerté un petit peu Valéry Giscard d'Estaing. Et ça, j'ai tout à fait le souvenir que dans la dernière phase du dialogue, il avait pris ce choc comme Mitterrand avait pris 7 ans avant le choc du monopole du cœur.
Vous vous souvenez d'un regard muet de Valéry Giscard d'Estaing. Au secours, vous voyez bien qu'il dit des bêtises.
Oui, je me rappelle. Alors peut-être je l'ai inventé, j'ai vu qu'à un moment donné, il disait « Mais vous ne pouvez pas... Enfin, on ne peut pas lui laisser dire ce qu'il dit sur l'économie. » Mais d'un autre côté, chacun avait son temps de parole, son temps d'antenne. Il n'était pas hors de question de prendre part et de dire « Monsieur Mitterrand, vous avez tort. » Alors que nous étions là, je vous le rappelle, pour équilibrer surtout les débats entre les deux.
Vous avez senti les choses jouer, Valéry Giscard d'Estaing aussi. Il avait sans doute sous-estimé l'exaspération qu'il provoquait. Et quand une exaspération se nourrit d'elle-même, elle emporte tout.
Oui, c'est l'exaspération. Quand on en revient 30 ans plus tard, c'est une exaspération, c'est exagéré. Une exaspération vraiment exagérée. Mais c'est vrai que la presse, depuis des années, matraquait sur son côté Louis XV, personne devant moi quand je suis dans une table, etc. Bon, et c'est vrai. Et je me rappelle même que dans son dernier meeting, quelque chose qui m'avait beaucoup étonné, c'est qu'il ne dînait pas avec les journalistes, mais dans un endroit à part, assis et très très confortable et très avec des fauteuils Louis XV, vous voyez. Donc c'était ça m'avait bon.
Mais c'était enfin, le Colin froid, disait Jean Edernalier face au grand requin venu des profondeurs.
10 mai 1981. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Au revoir.
Grâce à franceinter.com sur Twitter, la restitution de l'intégralité du débat que vous avez animé, Michel Cottard, et puis une nouvelle édition format de poche sous forme de carnet de route de vos grands cahiers secrets de la Ve République. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux, Jalaguier, Clarisse Le Gardien, à la technique Michel Bézikian et Éric Morin, la réalisation Jacques Sigal.